grandes éditions d'Afrique Matin, 10h40 à Paris.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il y a tout juste un an, la France se réveillait avec un nouveau président, le plus jeune de son histoire. À 39 ans, Emmanuel Macron promettait de réformer la France. Et en un an, il a certes imposé sa marque en multipliant les réformes, pour n'en citer que quelques-unes. Le code du travail, la loi antiterroriste, la loi asile et immigration, l'accès à l'université, la SNCF. Des mesures, disons-le, pas toujours populaires. D'ailleurs, selon une enquête du CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, 55% des Français reste un bilan négatif de l'action d'Emmanuel Macron. Sur la scène internationale, là aussi, le président a imposé sa marque, il a multiplié les déplacements, il a pris la défense des accords de Paris sur le climat, après l'annonce du retrait des États-Unis par Donald Trump. Il tente en ce moment même de sauver l'accord sur le nucléaire iranien, alors que le président américain pourrait très bien le dénoncer et le contester clairement dans le courant de cette journée. Il a encore, il y a quelques semaines, décidé de frapper la Syrie, ce qui change évidemment par rapport à la politique de son prédécesseur François Hollande, frappe sur la Syrie après l'attaque chimique supposée dans la Routa. Et puis, la politique étrangère d'Emmanuel Macron, c'est aussi l'Afrique, avec notamment son discours à l'université de Ouagadougou devant 800 étudiants. Et lors de ce grand oral, rappelez-vous, il avait promis d'augmenter le montant de l'aide publique au développement, d'accorder des visas longue durée pour les étudiants diplômés en France, mais aussi de restituer des œuvres d'art africaines ou encore de déclassifier des documents liés à l'assassinat de Thomas Sankara. Alors que retenez-vous finalement de cette première année du quinquennat Macron? Que vous inspire le style du président français, sa méthode, le rythme de ses réformes? Et vous qui nous écoutez à l'étranger, dites-nous si l'image de la France a finalement changé dans vos pays respectifs. 33 9 693 693 70. Vous nous rejoignez également sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Bonjour Mauriac.
Oui, bonjour, bonjour, Juan Gomez.
Vous êtes en région parisienne et vous appréciez, vous, l'action du président Macron?
Tout à fait, tout à fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le président Macron a mené en politique quelque chose, un nouveau mot qu'on appelle le pragmatisme. Aujourd'hui, moi, je juge le pragmatisme de Macron par le fait que, aujourd'hui, si je prends l'exemple de la loi travail, oui, on a commencé à l'appliquer, on aura le temps de l'évaluer sur le terrain. On n'a plus des lois qui sont votées par le président, par exemple Hollande, et que les effets sont sur Macron, on ne sait pas qui a fait quoi.
Oui.
C'est pragmatique.
Là, ce que vous appréciez chez le président Macron, c'est qu'à peine élu, il engage des réformes et il multiplie les réformes, c'est-à-dire qu'il ouvre plusieurs dossiers en même temps.
Ça, tout à fait, parce que là, du coup, avant la fin du quinquennat Macron, ben, on va évaluer. Donc ça, c'est le pragmatisme. C'est ce qui manquait dans ce pays depuis un moment, moi, je pense.
Et ce rythme, cette frénésie, elle ne vous fait pas peur? Vous ne craignez pas qu'à un moment donné, une partie de la société française se braque? Puisqu'on voit bien, on a vu les étudiants dans la rue, on voit les cheminots également dans la rue, les infirmières, le personnel Air France qui est en grève. Est-ce que vous ne craignez pas une vraie crise sociale, une vraie contestation?
La vraie contestation sociale va monter quand on va voir les effets. Si les effets sur le terrain ne se font pas ressentir, la contestation sera valable et valide. Et du coup, on va réfléchir pour orienter le pays d'une autre façon. Le statu quo ne convenait à personne. Macron a été élu parce qu'il nous a dit qu'il n'y aura plus de statu quo. On va essayer de faire des choses, on va les mettre en marche, on va les évaluer sur le terrain. Si aujourd'hui la loi ne tient pas la route, si par exemple les effets attendus ne sont pas les effets escomptés, on va réfléchir, on va prendre une autre direction. C'est comme ça qu'on cherche le pays.
Ouais.
C'est comme ça que le pays se cherche.
Je fais ce que j'ai dit. Je fais ce que j'ai dit, martèle le président Macron, et il rajoute toujours cette petite phrase en disant ça peut surprendre, mais c'est comme ça. C'est vrai que ça surprend plus d'un. On se souvient que le président François Hollande avait tardé quasiment un an avant de lancer les premières réformes. Là, les premières réformes sont arrivées quelques semaines après les élections législatives du mois de juin 2017. Merci Mauriac d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée en région parisienne. Pierre, bonjour.
Bonjour Monsieur Gomez et salut aux auditeurs de RFI.
Vous insistez, vous, sur la politique internationale d'Emmanuel Macron et votre bilan est positif.
Oui, absolument. On peut noter qu'après un an au pouvoir, on a pu observer chez Emmanuel Macron une rupture avec son prédécesseur François Hollande en matière de politique internationale. Rupture dans le fond, mais aussi rupture dans la forme. Et je note par exemple son engagement pour la préservation et la sauvegarde de l'universalisme contemporain. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, son volontarisme politique qu'il a manifesté dans le dossier syrien, par exemple, avec la fermeté dont il a fait preuve. Aussi, le volontarisme par rapport à la sauvegarde de l'accord de Paris sur le climat qui a été dénoncé par Donald Trump. Voilà, autant d'éléments qui prouvent en quelque sorte son volontarisme par rapport à la sauvegarde d'un ordre international par rapport à ce que je qualifie d'universalisme. Oui. Mais ce que je veux dire
Mais en même temps, excusez-moi, en même temps, c'est une formule très à la mode depuis un an, Pierre, mais en même temps, est-ce que vous voyez des changements palpables? Parce que vous dites, effectivement, il prend position pour défendre les accords sur le climat de Paris, il s'engage aux côtés des États-Unis et de la Grande-Bretagne pour bombarder la Syrie après l'attaque supposée dans la route orientale, mais tout ça pourquoi finalement au final?
Je pense que le monde est en train de vivre une période cruciale actuellement. Le réchauffement climatique, la montée du terrorisme et le repli identitaire d'un certain nombre de pays et l'impérialisme manifeste de l'URSS par exemple. Je pense que lorsqu'on va dans cette dynamique, on risque dans les années à court ou à moyen terme de sombrer dans une forme d'affrontement au niveau international. Je pense que ce volontarisme quand même préserve le monde, préserve notre planète par rapport aux dangers qui sont imminents. Et moi, ce que je veux dire par rapport au plan africain, je crains que sa neutralité, par exemple, sur les dossiers intérieurs africains ne puisse nuire aux populations africaines au détriment de leurs dirigeants. Et le CAD vient d'adopter, par exemple, une nouvelle constitution qui garantit quasi à vie le pouvoir, la présidence à son président Idriss Déby. Ouais.
C'est vrai que certaines voix s'étonnent du silence de Paris et de l'Élysée depuis un an sur, alors vous citiez le dossier tchadien à l'instant, mais sur les dossiers congolais, les dossiers togolais. Il y a d'ailleurs un excellent article à lire aujourd'hui même sur notre site rfi.fr, Macron et l'Afrique, la réelle politique d'abord, point d'interrogation, article de Pierre Firsion. On en parlera évidemment avec d'autres auditeurs. Restez avec nous, Pierre. En tout cas, à vous entendre, on a l'impression que grâce à Emmanuel Macron, la France a retrouvé un leadership international. Ne raccrochez pas, on va voir ce qu'en pense Mourchid, qui nous appelle de Brazzaville. Bonjour.
Oui, bonjour, Juan Gomez. Bonjour, RFI.
Est-ce que vous partagez l'analyse globale de Pierre, qui nous appelle de Tanger?
Exactement, Yann. Et Juan Gomez, je partage l'avis de Pierre. Et moi, ce qui m'a surtout frappé dans les un an d'Emmanuel Macron, c'est son ouverture sur la scène internationale et surtout sur son accueil réservé à Poutine qui a permis de déglacer en quelque sorte les relations franco-russes et renouer le dialogue avec Poutine. Ce qui n'a pas su faire François Hollande.
Oui. Donc c'était important de dérouler le tapis rouge au château de Versailles à Vladimir Poutine. D'ailleurs, dans trois semaines, si ma mémoire est bonne, Emmanuel Macron se rendra en Russie. Il parle avec Poutine, il parle avec Donald Trump. C'est essentiel pour vous,
oui,
de parler avec tout le monde.
Oui, c'est très indispensable pour la politique française. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où Angela Merkel est affaiblie dans son pays. Theresa May, suite au Brexit, n'a plus trop de valeur, de puissance politique. Et Macron doit saisir la chance de continuer ainsi à parler avec tout le monde et ne pas manquer l'occasion d'être ferme quand il le faut. Ça ne vous a pas échappé que Macron, il n'a pas hésité à frapper la Syrie quand il a jugé que Bachar al-Assad dépassait les bornes.
Oui.
Donc c'est ce qui me plaît dans la politique internationale d'Emmanuel Macron.
Ouais, c'est vrai qu'il avait fait de l'emploi d'armes chimiques en Syrie une ligne rouge, et lui-même avait dit si lorsque les lignes rouges ne sont franchies et qu'on ne réagit pas, eh bien on perd en crédibilité, et pour vous, effectivement, le fait de passer à l'acte donne du crédit à la politique internationale du président français. Pierre, vous souhaitez rajouter un petit mot de conclusion?
Oui, je dirais tout simplement que il faut que qu'on puisse assister à l'émergence aussi de au niveau international de présidents aussi pragmatiques comme Emmanuel Macron, enfin pour la stabilité et la paix de notre monde.
Merci à tous les deux, Pierre de Tanger, Mourchid de Brazzaville, 33 9 693 693 70. Quel bilan dressez-vous de la première année du mandat d'Emmanuel Macron? C'est toujours important, évidemment, un an, même si tout reste encore à faire. 4 ans devant lui, c'est ce qui lui reste au président Macron. Il est 10h50 à Paris, nous accueillons Yuba, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous souhaitiez nous parler de la politique africaine du président français?
Absolument. Je voudrais d'abord commencer par dire que je suis d'accord avec, en partie d'accord avec ce qui vient de passer, en l'occurrence Pierre est en vie. Mais je voudrais dire que, effectivement, l'arrivée de Emmanuel Macron à la présidence française a changé l'image, en tout cas de la présidence française, auprès de la jeunesse africaine. J'en veux pour preuve son passage justement à Ouagadougou.
À l'université.
Son exercice de style qui était vraiment à l'université, qui était vraiment un exercice pédagogique qu'on n'avait jamais vu sur le continent. Le dialogue direct avec la jeunesse, qui a changé vraiment tout avec ce dont on avait été habitué, notamment le fameux discours de Sarkozy à Dakar.
Oui.
C'était vraiment pas le même style.
Oui. On voit bien qu'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron aime cet exercice. Hein. Il y a quelques semaines, il était aux États-Unis. Il en a profité pour rencontrer là aussi des étudiants américains. Quelques mois plus tôt, si ma mémoire est bonne, il était en Inde. Et là aussi, il s'est adressé directement à la jeunesse indienne, dans le cadre évidemment d'une université sur un campus. Sa force aussi, c'est qu'il parle anglais. Et il maîtrise extrêmement bien cette langue. Donc qu'il soit sur le continent africain, dans des pays francophones, il s'adresse à la jeunesse en français, mais quand il est aux États-Unis ou en Inde, il leur parle directement en anglais.
Et ça force le respect envers cet homme. Et je vous le cache pas, nous qui causons dans les graines, nous savons aujourd'hui, par exemple, qu'un peu partout, en tout cas au Mali, il suscite des vocations, il suscite des ambitions. Et les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient à lui, qui prennent son exemple, qui disent que, ben voilà, on peut devenir président de la République avec nos idées, sans faire partie forcément d'un vieux parti politique. Mais là où moi je donnerais un bémol à sa politique, moi, l'avènement de Macron m'a suscité beaucoup d'espoir pour la politique française au Mali, que je trouve très ambiguë.
Oui.
Et un an après, je ne vois pas vraiment d'issue à cette politique-là. On reste dans cette ambiguïté dans la pratique des choses.
Oui, mais enfin, Yuba, vous dites politique ambiguë. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Vous êtes sur place au Mali, Yuba. Il y a cette force du G5 Sahel qui est chargée de lutter contre le terrorisme. Certes, c'est une initiative africaine, mais c'est tout de même la France. Et c'est le président Macron qui donne l'impulsion à cette force et qui organise des appels de dons pour que la communauté internationale se mobilise pour financer cette force sous-régionale.
Mais justement, pour parler de cette force sous-régionale, je pense que les choses vont trop lentement, que l'AMINUSMA n'a pas un mandat clair, qu'il y a trop de cacophonie et quand Macron arrivait, l'insécurité au Mali c'était juste le nord. Aujourd'hui, le centre et une bonne partie du sud se trouvent dans l'insécurité totale.
Vous n'êtes pas assez ferme. En même temps, la France a déployé sur le terrain la force Barkhane, 1700 hommes. Il y a une mission des Nations Unies sur place. Ce n'est pas au président Macron de s'ingérer. Enfin, à moins que vous attendiez, vous, peut-être, cette ingérence dans les affaires intermaliennes pour essayer de mettre fin à la crise et à l'insécurité qui, effectivement, vous avez raison, descend peu à peu vers le sud du pays. Emmanuel nous appelle de Conakry. Bonjour.
Oui, bonjour, Anne. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Macron doit faire plus sur le plan démocratique, disiez-vous au Standard.
Oui, absolument. Mais je voudrais d'abord saluer la politique de Macron. Je suis épaté par la personne, par son âge. Je crois que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, Macron est un homme politique qui doit et qui sert déjà d'exemple pour nous, la jeunesse africaine, qui nous engageons ou bien qui voudront bien nous engager en politique. C'est extrêmement important pour nous. Cela nous rappelle qu'il ne suffit pas d'avoir 60 ans, 70 ans en Afrique pour être président. parce que tous nos présidents africains ont cet âge au-delà de 50 ans. Donc c'est un rêve et un espoir pour nous qu'on peut avoir le pouvoir ici en Afrique à moins de 40 ans. Le premier aspect, c'est cela. Deuxième aspect, la politique africaine de Macron, pour le moment, pour nous, c'est une bonne voie, bien que c'est encore un peu morose. Mais je souhaite ardemment, pour nous, pour moi, Guinéens, qu'il puisse peser lourd dans la gouvernance des affaires publiques, surtout en matière démocratique. Parce que chez nous, il y a des voix qui s'élèvent pour, on appelle ça les sirènes révisionnistes, la Constitution pour un troisième mandat. Et pour la Guinée et pour beaucoup de pays, il puisse être un tremplin, un levier fort pour interpeller ces dirigeants africains. Oui. De ne pas modifier la constitution.
Alors tout à l'heure,
c'est le cas, par exemple, Emmanuel, en Guinée.
Emmanuel, tout à l'heure, un auditeur s'étonnait du silence du président Macron sur le dossier tchadien. On en parle depuis le début de la matinée sur ce volet réel politique ou pas de la politique Macron en Afrique, des dossiers congolais, des dossiers togolais. Vous attendez une intervention pour empêcher une révision constitutionnelle dans votre pays. En même temps, on voit bien, enfin, je ne sais pas quelle est votre perception, qu'Emmanuel Macron, il est surtout dans une diplomatie économique sur le continent africain, plus qu'une diplomatie politique.
Oui, oui, oui. Bon, je crois que la mission d'un président, c'est d'apporter autant que peu du mieux à sa population, parce que si l'économie va bien, ça veut dire que l'homme se sent mieux à l'aise. Les Français vont mieux bénéficier de cette politique. Mais au-delà de ça, effectivement, la politique africaine, sur le plan politique, c'est un peu moreau. On aurait bien voulu qu'il soit plus présent,
bien.
Hein, qu'il soit plus interventionniste. C'est important, nous sommes dans la
interventionniste,
hein.
Interventionniste. On va voir ce qu'en pense Albert. Je vous interromps, je suis désolé, je regarde la pendule, il nous reste à peine 3 minutes, et vous étiez encore quelques-uns à souhaiter prendre la parole ce matin. Bonjour Albert.
Bonjour Juan.
Vous auriez souhaité que Emmanuel Macron soit plus interventionniste, comme le disait à l'instant un auditeur, Emmanuel de Conakry?
Oui, plus interventionniste, mais sur le volet démocratie et alternance démocratique. Mmh. Et je souhaiterais, par exemple, qu'il essaie de conditionner l'aide au développement à l'évolution démocratique du pays. Nous voyons aujourd'hui, en Afrique, certains présidents font tout ce qu'ils peuvent pour se maintenir au pouvoir. On voit en RDC, au Burundi, au Tchad et autres. Vraiment, et comme l'a dit un de mes prédécesseurs, ça peut déteindre négativement sur la vie des populations dans le pays. Donc vraiment, c'est vrai qu'il y a la rupture par rapport à la France-Afrique,
oui.
Où il a quand même dit une certaine vérité aux étudiants de l'université de Ouagadougou, discours de vérité où il disait aux étudiants que votre réussite est dans votre main, un peu comme le Yes Weekend d'Obama,
effectivement. Effectivement. Et puis, vous parlez de France-Afrique, lui-même, d'entrée de jeu, lors de son discours à l'université de Ouagadougou, affirmait, il n'y a plus de politique africaine de la France, il y a un continent que nous devons regarder en face, avait-il dit, tout en soulignant que le destin de la France était lié à celui de l'Afrique. Merci à tous de votre fidélité. Le débat se poursuit, si vous le souhaitez, évidemment, sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, RFI, Appel sur l'actualité. On vous attend dès maintenant au standard pour le débat de demain matin. Vous pouvez commencer à vous inscrire. On parlera du Tchad, un pays évoqué à plusieurs reprises durant les 20 dernières minutes. Le Tchad, où la nouvelle constitution est entrée en vigueur vendredi dernier. Le pays a donc basculé dans la 4e République. Et on a bien vu que les pouvoirs du président Idriss Déby ont été renforcés. Je vous rappelle qu'il n'y a plus de Premier ministre, que le poste de vice-président n'a pas été retenu. En tout cas, l'opposition est vent debout. Elle dénonce un coup d'État constitutionnel contre la démocratie. D'autant que la nouvelle constitution n'a pas été adopté par référendum. Vous, Tchadiens, vous n'avez pas été consulté. Qu'avez-vous pensé, justement, de ce procédé et que vous inspire cette 4e République? On en parle demain et vous vous inscrivez dès maintenant. 33 9 693 693 70. On vous attend également avec vos questions à la rédaction. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain matin, 8h10, temps universel.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Money, la référence du paiement de factures via le mobile.
Et dans 10 minutes, comme tous les matins à cette heure-ci, vous allez retrouver Priorité Santé au micro aujourd'hui. Diarra Ndiaye, bonjour Diarra.
Bonjour Juan.
Comment traiter et prévenir les infections?